tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Quel est le point commun entre Blaise Pascal, Voltaire, Victor Hugo, Georges Sand, Sigmund Freud, Lewis Carroll ou encore André Gide? Ils étaient tous migraineux comme les 11 millions de Français touchés par cette maladie. Selon l'assurance maladie, il s'agit d'une véritable pathologie invalidante et qui affecte le quotidien. Ce n'est pas une maladie imaginaire. Dans la galaxie des céphalées, la migraine n'a rien à voir avec un simple mal de tête qui passerait avec une aspirine. Nous verrons ce qui caractérise la migraine, quels sont ses mécanismes, les signes avant-coureurs d'une crise, les différentes formes de migraine, quelles en sont les causes environnementales et génétiques, pourquoi les femmes sont plus touchées que les hommes. Et puis nous verrons comment soulager la migraine, quelles sont les dernières innovations en la matière. L'alimentation et les techniques psychocorporelles comme le yoga ou la méditation peuvent-elles vraiment aider les migraineux? Nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Notre médecin romancier qui exerce à Toulouse. Beaucoup de réactions positives à votre chronique lundi dernier, mon cher Baptiste. Quel est le menu de votre chronique ce matin ?
Je reviens sur une bonne idée mal appliquée qui est le remboursement des psychologues par la Sécurité sociale.
À tout à l'heure. Bonjour Thierry Lhermitte.
Bonjour Ali.
Ambassadeur très investi de la Fondation pour la Recherche Médicale, tous les mois vous visitez un laboratoire. Vous évoquerez en fin d'émission les dernières recherches sur la maladie de Huntington.
Exact.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Ali Rébi. Grand Bien vous fasse.
Je fais des migraines qui sont en continu, qui ne s'arrêtent jamais. Et ça va faire 2-3 mois que là, ça y est, c'est installé et ça part plus. Et c'est toujours une douleur très haute. Je lisais beaucoup, je ne peux plus lire. J'allais au collège, je ne peux plus aller au collège. Je ne peux plus rien faire, vraiment. Me promener dehors, marcher, tout ça, ça me demande beaucoup d'efforts.
Constance, adolescente qui souffre de migraines depuis qu'elle a 11 ans, c'était sur France 3 en avril dernier. Bonjour docteur Carole Sereny.
Bonjour.
Vous êtes neurologue, ancienne chef de clinique des hôpitaux de Paris. Vous êtes co-responsable de la consultation multidisciplinaire de la douleur chronique à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Et vous venez de publier aux éditions du Cerf les mots de la migraine. Bonjour Sabrine de Brémécoeur. Bonjour.
Et Sabine.
Sabine, pardonnez-moi. Sabine de Brémécoeur, vous êtes la présidente de l'association La Voix des Migraineux.
Oui, tout à fait.
Bonjour, docteur Virginie Coran.
Bonjour.
Vous êtes neurologue au CHU de Bordeaux et vous êtes responsable au sein du centre d'études et de traitement de la douleur. Alors, la migraine, Carole Sereny, c'est une véritable maladie. Et pourtant, c'est une pathologie assez difficile à expliquer, car il ne s'agit pas d'un simple mal de tête que l'on peut éprouver à la fin d'une journée difficile ou après une soirée arrosée.
Non, la migraine, c'est effectivement une vraie maladie. D'ailleurs, c'est classé parmi les causes principales de handicap par l'OMS. On ne connaît pas encore toutes les causes de la migraine, c'est ça qui reste très mystérieux. Mais les gens qui ont la migraine savent bien ce que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Ce sont des crises qui associent une douleur et un mal de tête à d'autres symptômes très divers, qui ne sont pas toujours les mêmes d'une personne à l'autre. Pendant la crise, il y a véritablement un handicap considérable. Les gens ne peuvent pas travailler, sont vraiment... quand ils se forcent à travailler, d'ailleurs, ils travaillent mal. C'est ce qu'on a montré dans les études économiques. Il y a une perte considérable de ressources liées à la migraine. C'est un vrai fléau.
C'est une maladie liée à une excitabilité neuronale anormale.
C'est actuellement l'hypothèse qu'on a, c'est qu'en réalité, ce qui déclenche la migraine, c'est une excitabilité anormale des neurones au niveau du tronc cérébral, au niveau de la partie interne du cerveau. En fait, le migraineux réagit trop à quelque chose et il envoie, du coup, le cerveau envoie une espèce de signal de crise qui va se traduire par tout un tas de symptômes, en particulier la douleur.
Alors la migraine, c'est une maladie neurologique qui appartient à la catégorie des céphalées. C'est quoi une céphalée ?
Céphalée, c'est mal de tête.
D'accord.
Tous les maux de tête sont des céphalées. C'est si on vous tape sur la tête et que vous avez mal après, c'est une céphalée. Si vous avez une méningite, c'est une céphalée. Donc c'est juste un symptôme. C'est un mot un peu compliqué et grec pour dire quelque chose que tout le monde connaît.
Alors revenons sur les principaux symptômes d'une migraine. On retrouve quoi ? De la fatigue, de la gêne liée à la lumière, de la difficulté à supporter le bruit, des nausées aussi ?
Dans la migraine, il y a le symptôme évidemment le plus connu, majeur, c'est la douleur qui normalement touche un côté de la tête, puisque c'est de là que vient le nom, migraine, moitié de la tête. Mmh. Et donc, cette douleur, elle est particulière parce qu'elle est forte, elle tape dans la tête et elle s'accompagne de signes. En particulier, comme vous le disiez, la difficulté à regarder la lumière, l'espèce de douleur que déclenche la lumière qui est vraiment spécifique de la migraine. Et l'autre signe majeur, c'est les troubles digestifs, essentiellement des nausées et des vomissements. Ça peut entraîner des vomissements importants.
Sabrine de Brémaker, à quand remonte votre première migraine, votre première crise ?
Mes premiers souvenirs à mes 6 ans, peut-être avant.
Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ?
Quand je suis enfant, c'était considéré comme une crise de foie. Voilà, des vomissements, mal au ventre, mal à la tête. Et j'avais des auras aussi, des auras principalement visuelles et puis une sensation bizarre dans les membres.
Qu'est-ce qu'une aura, docteur Carole Sereni ? Oui, parce qu'il y a les migraines avec aura et sans aura.
À peu près 20% des migraines ont des auras. Les auras, ce sont des manifestations liées à un dysfonctionnement transitoire du cerveau. Un peu comme dans l'AVC, mais c'est pas du tout des AVC. Mais il se passe un peu la même chose, c'est-à-dire que le cerveau, en quelque sorte, imagine des choses, reproduit des choses, en particulier visuelles. C'est-à-dire, le plus fréquent, c'est l'aura visuelle, où les gens voient, ont des hallucinations. Ils voient des choses qui brillent, qui bougent, qui scintillent. C'est ce qu'on appelle le scotome scintillant. En même temps, ils ont du mal à voir la réalité parce que ça les bloque. Ils ne voient plus ce qui se passe. Ça peut être très dangereux. Par exemple, si vous conduisez, ça peut être excessivement dangereux. Des fois, c'est assez extraordinaire. Pour certaines personnes, ça a été une stimulation de la création artistique. En particulier, Lewis Carroll dans Alice au Pays des Merveilles s'est inspiré beaucoup de ces auras. C'est un phénomène très, très particulier. Je crois que ceux qui n'en ont jamais eu peuvent avoir du mal à imaginer ce que c'est.
Tiens, Sabrine de Brémaker, décrivez-nous ce que vous ressentez lorsqu'une crise survient.
Alors moi, j'ai un type de migraine très particulier. Ce que je ressens, le premier symptôme d'une crise importante, c'est du brouillard dans le cerveau. Petit à petit, ça devient très, très confus. L'aura visuelle, elle est très fréquente pour moi, donc c'est pas un signe précurseur. Progressivement, ma vision s'amenuise, je perds mes mots, et puis je perds la motricité du côté gauche. Principalement la jambe, le bras est engourdi, et donc là, c'est très dangereux, je peux aller jusqu'à la perte de conscience.
Virginie Coran, quelle est la particularité de la douleur migraineuse ?
C'est une douleur qui peut être sévère au point d'empêcher de penser. Penser peut devenir douloureux. Et voilà, les patients décrivent une douleur qui, dans ses extrêmes, tape. Ça fait comme les sensations de battement de cœur dans la tête. Mais en dehors des crises sévères, ça peut être aussi une pression et un brouillard, comme le disait Sabine, un brouillard où les neurones dans le coton, souvent les patients décrivent cette sensation. Et puis si la crise s'aggrave, voilà, la moindre activité, la moindre pensée peut devenir douloureux.
Question de Thierry Lhermitte.
Je voudrais savoir, qu'est-ce qui fait mal alors que la matière cérébrale est insensible, puisqu'on peut opérer des gens conscients, cerveau ouvert ?
Effectivement, ce n'est pas le cerveau qui fait mal, parce que le cerveau lui-même ne sent rien, mais par contre, ces enveloppes sont très sensibles, les méninges, et les vaisseaux sont très sensibles. Et on pense que la douleur se situe au niveau des petits vaisseaux méningés, où il y a à la fois une dilatation de ces petits vaisseaux et surtout une inflammation très particulière, ce qu'on appelle l'inflammation neurogène. C'est-à-dire que le neurone lui-même enflamme en fait le vaisseau.
Alors, docteur Carole Sereny, pourquoi la migraine touche essentiellement les femmes? En prévalence, 3 femmes pour un homme. Un chiffre, en 2019, l'Organisation mondiale de la santé classait la migraine comme 2e maladie la plus invalidante au monde chez les moins de 50 ans. Et la première, c'est la première chez les femmes. Pourquoi les femmes sont plus touchées?
Ça, c'est une grande, grande question. Et ça a été d'ailleurs, ça a contribué au fait que personne n'a pris la migraine au sérieux pendant très longtemps, parce que c'était une maladie de bonnes femmes, comme on dit. C'était les bonnes femmes qui n'avaient rien à faire et qui donc se plaignaient. Et en réalité, les pauvres migraineuses, elles souffraient terriblement et elles étaient handicapées. Alors, une des raisons est certainement hormonale, parce que c'est le cycle menstruel chez la femme est une des grandes causes de déclenchement des migraines. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est peut-être pas la seule raison. D'abord, il y a quand même une différence entre les hommes et les femmes dans la douleur. Ça, on le sait. Et il y a probablement d'autres choses qui interviennent. Mais dans la migraine, on ne peut pas faire l'impasse du problème des hormones. Alors, les hormones des migraineuses ne sont pas anormales. Le cycle menstruel des migraineuses est normal. Et comme les autres, elles sont fertiles normalement, elles vont pas avoir de problème particulier, mais leur cerveau est très sensible aux variations des hormones. Et c'est ça le problème, c'est qu'en particulier les œstrogènes rentrent dans le cerveau, agissent comme modulateurs dans le cerveau, et le cerveau des migraineuses n'aime pas du tout la baisse des œstrogènes qui arrivent dans le cycle menstruel normalement.
Docteur Virginie Coran.
Oui, c'est vrai que les étapes de la vie hormonale de la femme, en tout cas les étapes où il y a des fluctuations hormonales, il y a des liens importants avec la maladie migraineuse. Donc par exemple, la migraine peut apparaître chez les femmes au moment de la puberté. Le lien avec la période des règles, qui est souvent une période où vont se déclencher des crises. Il y a même des femmes qui n'ont des crises qu'au moment de leurs règles. L'évolution habituelle de la migraine pendant la grossesse, qui est une période dans 90% des cas d'amélioration, mais chez 10 à 20% des migraineuses, ben, les crises vont persister et vont devoir être prises en charge. Et puis enfin, le plus souvent après la ménopause, une amélioration de la maladie migraineuse. Mais c'est vrai que la période de la périménopause, c'est-à-dire autour de la ménopause, peut être une période d'aggravation. Donc tout au long de la vie d'une femme, des liens importants entre les périodes de fluctuation hormonale et des variations de sévérité de la maladie migraineuse.
Sabine de Bremaeker.
Alors moi je voudrais souligner un fait qui a l'air méconnu, c'est que nous avons quand même 12 000 abonnés sur les réseaux sociaux et j'ai beaucoup d'échanges par les mails. Et beaucoup d'hommes me disent ne pas oser parler de la migraine.
Pourquoi ?
Certains n'ont pas consulté, n'en parlent pas au travail de peur de perdre leur emploi. Dans la famille, il faut être viril, il faut pas être faible quand on est un homme. Et ma conclusion et celle de l'équipe, c'est que probablement le nombre de migraineux hommes est sous-estimé et qu'ils sont encore moins bien traités que les femmes.
Sabrine de Bremaeker, ce qui peut être difficile à vivre, c'est quand on considère que vous êtes une malade imaginaire. Pourquoi la migraine est-elle encore trop souvent mal comprise?
Je pense qu'une des raisons, c'est qu'en crise, comme l'ont dit les médecins, on est incapable de bouger, on est incapable de parler parce que ça fait mal, même sans les auras. Et donc, on ne consulte pas à ce moment-là. On va chez le médecin le lendemain ou le surlendemain, épuisé, parfois en larmes. Et on s'entend dire, vous êtes fatigué, vous pleurez, donc c'est une dépression, c'est psychologique. C'est souvent ce qui revient. Je pense que tous les migraineux l'ont vécu. Et ça, c'est... Ça contribue au fait que c'est une maladie invisible, quoi. Alors que les autres handicaps, ne fussent qu'un peu, on peut les mesurer, on les voit plus, mais nous, on est dans notre chambre, dans le noir. Et voilà, quoi. Et puis le fait de devoir s'allonger, se reposer, ça passe souvent comme un prétexte à ne rien faire.
Carole Sereny.
Curieusement, en fait, cette mauvaise réputation de la migraine ne date pas de l'Antiquité, alors que la migraine est connue depuis toujours. Elle s'est vraiment développée au 19e siècle. Il y a quand même beaucoup de misogynie là-dedans. Ça a beaucoup joué. Les premières descriptions ridicules de la migraine, là où qui faisait rire, datent de cette époque-là. Et il y a d'ailleurs une Anglaise qui a fait une thèse là-dessus. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup lié au fait que voilà, c'est des femmes. Effectivement, comme disait Sabine, elles se reposent. En plus, il y a toujours eu depuis longtemps, on parle des problèmes de sexe. Alors les migraineuses seraient moins intéressées par le sexe et utiliseraient les migraines pour échapper au devoir conjugal, c'est ce qui se dit beaucoup au XIXe siècle. Tout ceci est bien sûr complètement faux, et c'est absurde, mais ça reste des idées très ancrées. Alors pour les hommes, effectivement, je suis entièrement d'accord avec Sabine là-dessus, l'homme migraineux n'est pas assez reconnu.
Bonjour Lona, bienvenue.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
D'où appelez-vous ?
De Cormolin, dans le 14.
Dans le Calvados. Alors, voilà. Vous souffrez de migraines depuis l'adolescence, c'est
oui,
ça?
Oui, tout à fait, depuis l'adolescence. Ça s'est déclenché au moment des premières règles, à peu près. Mm-hmm. Et j'ai souffert de migraines pendant toute ma vie. J'ai 53 ans bientôt. Donc,
qu'est-ce que vous ressentiez, Lona?
Alors, en fait, j'avais des maux de tête d'un seul côté, mais très très fort. Et puis, maintenant, c'est plus de l'agacement au début. Et puis des nausées, des vomissements, des choses comme ça, je suis pas bien, je me sens angoissée, je me sens vraiment mal, j'arrive pas à penser, j'arrive pas à réfléchir. Donc c'est très compliqué.
Comment vous soignez-vous? On abordera tout à l'heure les traitements médicamenteux, mais voilà, comment vous soignez-vous?
Moi, j'ai été sous triptan pendant des années et des années, et puis j'étais à 5-6 migraines par semaine, et maintenant, je suis à une migraine tous les 3 mois, depuis que je fais faire de l'acupuncture.
En complément des médicaments?
Des triptan, une fois, je les prends uniquement quand j'ai des crises, les triptan, et en fait, c'est pour moi, ça a été une renaissance, quoi. C'est miraculeux.
Merci beaucoup, Lona, pour votre témoignage positif. 10h23, l'heure de retrouver la chronique, alors voilà, de Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Baptiste Beaulieu en direct de chez lui à Toulouse.
Oui, Ali. L'autre matin, vous savez, j'avais rendez-vous chez ma psy à 8h et ça m'arrange, comme ça, je peux attaquer mes visites à domicile à 9h. Et c'est bien ça, les psys, quand ils sont bons, évidemment, ça permet d'avoir quelqu'un à qui parler de mes difficultés en tant que soignant. Et si je parle de ça ici à l'antenne, c'est parce que, je crois, il faut normaliser le fait d'aller voir un psy. La vie ne fait pas de cadeaux, on va pas voir un psychologue car on est faible ou fragile, on va voir un psychologue car on est suffisamment fort et sage pour ne pas faire payer aux autres les sentiments qui nous traversent en tant qu'être existant dans un monde très difficile. Mais on va aussi voir un psy car on le peut. C'est pas donné à tout le monde. Les consultations gratuites dans les CMP, vous savez, les centres médico-psychologiques, c'est environ 9 mois d'attente à Toulouse. Et je pense que c'est bien pire dans d'autres villes. Vous imaginez, Ali, vous n'allez pas bien, vous avez envie de vous pendre, ben revenez en août, j'aurai une place. Quand la Sécurité sociale a proposé de rembourser des séances, je pensais que c'est bien pour les patients qui n'ont pas les moyens, et c'est une juste reconnaissance de l'apport des psychologues à la santé publique. Eh bien, je ne pouvais pas me tromper davantage, Ali. Parce que le fait que près de 8000 psychologues boycottent ces dispositions devrait nous mettre la puce à l'oreille, à tous. J'ai commencé à le comprendre quand pour faire entrer un patient dans ce dispositif de remboursement, j'ai attendu 20 minutes au téléphone qu'une personne de la Sécurité sociale me réponde et valide, car oui, c'est soumis à la validation d'un certain nombre de critères, à commencer par l'absence de médicamentation anxiolytique ou antidépressive. C'est ballot vu que c'est un peu beaucoup les traitements qu'on prescrit aux personnes qui ont besoin d'aller consulter un psychologue en urgence. Ensuite, il s'agit de trouver un psychologue conventionné. Le chemin de croix continue. Le médecin traitant, s'il le juge nécessaire, remplit une première ordonnance pour une première séance. Puis en fonction de ce bilan, s'ensuit la rédaction d'une seconde ordonnance pour 7 séances de soutien psychologique. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on résout un problème avec 8 séances ? Heureusement, les 8 séances sont renouvelables une fois, mais l'année suivante, Ali. Et puis le message envoyé aux patients, c'est « Écoutez, monsieur, vous avez eu 6 séances, il s'agirait d'aller mieux d'ici 2 séances, sinon il va falloir attendre l'année prochaine. » Après, ça va, c'est pas comme si c'était déjà très difficile d'engager la démarche d'aller consulter un psychologue quand on va mal. Et le psychologue, d'ailleurs, parlons-en. Et le psychologue, il est payé 30 euros. Il doit ensuite établir un compte-rendu de l'administratif non rémunéré, évidemment. Donc oui, au remboursement, bien sûr que oui. Mais pas dans ces conditions déplorables qui concourent à la fois à maltraiter les patients et à précariser les professionnels de la santé mentale. Et surtout, on ne s'appuierait pas sur les psychologues libéraux si l'hôpital et les CMP étaient suffisamment financés et dotés. Donc c'est un bel effet d'annonce politique, c'est très suffisant dans un contexte de pré-campagne électorale, mais je suis pas sûr que ça soulage les patients de leurs maux, que cela respecte les psychologues, ni que cela allège l'emploi du temps des médecins, et je peux en témoigner. Le patient, le psychologue et le médecin méritent mieux que cette nouvelle usine à gaz, et je tenais à dire ce matin à l'antenne que nous pouvons les soutenir tous les trois sur les réseaux avec le hashtag ManifestePsy.
Merci Baptiste Beaulieu. On peut podcaster votre chronique. Alors voilà, sur l'appli France Inter, vous restez évidemment avec nous, mon cher Baptiste. Dans un instant, vous verrez comment traiter et prévenir une migraine, s'il existe des méthodes naturelles et quels sont les traitements prometteurs. En attendant, on écoute Janis Joplin. Janis Joplin, Move Over.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
10h30 et ce matin, comment surmonter une migraine? Toutes vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Écoutons Delphine, atteinte de migraine.
Ben, le mot de tête, c'est principalement une douleur qui est supportable, tout simplement, qu'un antalgique peut faire éventuellement passer. La migraine, ça ne l'est pas. La migraine, c'est être isolé dans le noir pendant 24, 48, 72 heures même, avec des douleurs qui sont atroces au niveau donc de la tête, principalement donc comme si on avait vraiment la tête dans un étau, jusqu'à des vomissements, d'autres problèmes qui peuvent aussi venir. Moi, je sais que j'ai eu même jusqu'à des évanouissements une fois, qui ça m'est arrivé tellement que c'était vraiment insupportable. Et puis, ça prend. Moi, ça me prend très tôt le matin, principalement.
Delphine, dans l'émission Ensemble c'est mieux, diffusée sur France 3 en 2019. Docteur Carole Serini, je rappelle que vous êtes neurologue, grande spécialiste de la migraine. Quelle est la part génétique de la migraine? Peut-on dire qu'il existe des familles de migraineux?
Il existe incontestablement des familles de migraineux. Il y a des formes de migraines qui sont particulières, qui sont vraiment complètement génétiques, c'est-à-dire que on les hérite directement de ses parents, comme ce qu'on appelle la migraine hémiplégique. Ce sont des formes rares, mais qui montrent bien que la migraine peut s'hériter. Dans la migraine habituelle, il y a plutôt quelque chose qui est favorisant, c'est-à-dire que si vous avez des parents migraineux, vous aurez plus de risques de faire une migraine que les autres personnes, mais vous n'allez pas automatiquement en faire comme d'autres maladies.
Et quels sont les principaux facteurs environnementaux qui peuvent déclencher ou aggraver une migraine? Est-ce que le stress, les troubles du sommeil, la consommation d'alcool, l'usage d'opiacés, certains aliments peuvent déclencher ou aggraver la maladie migraineuse?
On a fait beaucoup d'études récemment partant des migraineux eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ressentaient, qu'est-ce qu'ils déclaraient, pour essayer de bien isoler les facteurs d'environnement qui peuvent déclencher les crises. Et il y en a beaucoup. Comme on peut dire que dans ce qui est anormal chez le migraineux, c'est une réaction excessive à des changements. Beaucoup de changements peuvent déclencher des crises. Par exemple, le sommeil. Si le jour où vous dormez beaucoup moins ou beaucoup plus que d'habitude, vous avez beaucoup plus de risques que si vous êtes migraineux de faire une crise. Par exemple, alors le stress, c'est compliqué parce qu'en fait, la migraine elle-même, la crise, donne une impression de stress. Donc, c'est pas toujours facile de discerner où est l'œuf et où est la poule.
Et des aliments comme le chocolat, les aliments à base de glutamate, sont réputés déclencher des migraines?
Il y a plein d'études là-dessus parce que oui, bien sûr, les migraineux disent certains aliments me déclenchent des crises, et en particulier le chocolat, qui est un des premiers partout dans le monde d'ailleurs, dans toutes les civilisations, partout, on dit que le chocolat, et c'est le bon chocolat, le chocolat riche en chocolat, le chocolat noir, c'est celui-là qui est particulièrement
riche en cacao,
particulièrement incriminé. L'alcool, bien sûr, le glutamate. Alors, plus spécifiquement, ce sont les Asiatiques qui disent que c'est ça qui leur déclenche les crises. Et effectivement, même
chez nous, on retrouve du glutamate dans beaucoup de plats asiatiques.
Parce que le glutamate est très utilisé dans la cuisine asiatique. Chez nous, il y a ce qu'on appelle le syndrome du restaurant chinois. Certaines personnes ont des crises déclenchées par la cuisine asiatique.
Sabine Dobrun-Ecker, présidente de l'association La Voix des Migraineux.
Oui, alors ce que je voulais ajouter, c'est que je pense que le docteur Serini va en parler. C'est la confusion entre prodrome et déclencheur. Quelquefois, on pense qu'un aliment déclenche la migraine. Or, pendant le prodrome, on a des fringales et souvent, moi je me rappelle d'avoir mangé une tablette de chocolat entière et je pensais que c'était le chocolat qui déclenchait les migraines. Or, j'étais déjà en prémisse de migraine.
C'est quoi les prodromes, en quelques mots?
Les prodromes, ce sont les signes précurseurs, les signes annonciateurs. C'est-à-dire que le cerveau commence déjà à préparer la migraine. Il y a des déclics dans le cerveau. Je préfère laisser le docteur Carole Serini expliquer ça plus scientifiquement.
Oui, on s'est rendu compte que beaucoup de symptômes étaient annonciateurs de migraines et qu'en fait on les remarque pas toujours. Le plus fréquent, c'est la fatigue. Le grand coup de fatigue chez le migraineux, l'impression oh là là, je suis fatigué, et en plus on s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'on se dit on n'a pas souvent le déclic de dire ah, c'est ma crise qui commence, mais en réalité si, cette fatigue anormale, inhabituelle est un signe de migraine. Les modifications de l'humeur, le fait de se sentir anormalement triste ou quelquefois anormalement zen, le fait d'être particulièrement bien, ça peut être malheureusement un signe avant-coureur de migraine. Il y a aussi le fait d'avoir le cou raide. C'est « oh là là, j'ai du mal à bouger aujourd'hui, ça va pas », ça peut être la migraine.
Docteur Virginie Coran.
Oui, je voulais revenir sur les questions sur la cause de la migraine. Parce que finalement, les patients nous posent souvent cette question, mais quelle est la cause de la migraine? Alors, je crois que c'est l'occasion à la fois de rassurer et de déculpabiliser les patients migraineux. D'abord, je crois qu'il faut dire que la migraine est une vraie maladie, avec des anomalies neurobiologiques de mieux en mieux identifiées. Carole a parlé tout à l'heure de l'influence de la génétique. Donc ce que je voulais dire pour rassurer les migraineux, c'est que la transmission de la migraine n'est pas sous la dépendance d'un seul gène. Elle est sous la dépendance de plusieurs gènes. C'est ce qu'on appelle une maladie polygénique. Et donc la transmission de la migraine n'est pas obligatoire et systématique à sa descendance.
Alors...
Et puis... Oui.
Allez-y, pardon. Excusez-moi.
Et puis sur cette influence de la génétique vont se greffer une sensibilité qui est en lien avec cette neurobiologie de la migraine, une sensibilité à tout un tas de stimuli, les odeurs tout particulièrement, mais aussi le bruit, des stimuli visuels, une hyperluminosité en hiver ou en été. Donc voilà, il y a un soubassement polygénique, avec l'influence de plusieurs gènes, mais la maladie migraineuse n'est pas de transmission obligatoire et systématique, et l'influence de plusieurs gènes explique sans doute cette vulnérabilité du cerveau du migraineux à s'adapter à des changements de l'environnement.
Alors, docteur Carole Sereni, quels sont les traitements de première intention lorsqu'on souffre de migraines ?
D'abord, il y a deux situations différentes. Ça, c'est vraiment important de faire la distinction. Il y a la plupart des migraineux qui ont des crises de temps en temps. En gros, ils ont moins d'une crise par semaine. Et c'est vraiment la plupart des gens. Ceux-là, ils ont essentiellement besoin d'un traitement de la crise. C'est-à-dire qu'il faut avoir quelque chose à prendre tout de suite, dès qu'on a repéré qu'on commençait une crise. Et en général, ça passe. Le traitement de première intention, quand tout va bien, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Parce que les antalgiques simples, ça marche souvent pas dans la migraine.
L'aspirine,
ça peut marcher, en fait. L'aspirine à bonne dose. Ce qu'il y a, c'est que l'aspirine à bonne dose, de façon répétée, comme dans les crises de migraine, ça finit par ne plus être très, très bien supporté. Souvent, on a mal à l'estomac. Et puis, le cran suivant, c'est les antimigraineux spécifiques, ce qu'on appelle les triptans actuellement. Il y en a d'autres qui sont en développement, mais ça reste la famille des triptans, qui, en fait, marchent quand même chez beaucoup de gens, la plupart des migraineux sont soulagés par les triptans.
Quels sont les effets secondaires et les contre-indications quand on souffre de migraine et qu'on vous prescrit des triptans? Est-ce qu'il y a des effets secondaires, des contre-indications?
La première chose importante aussi qui compte pour les migraineux, c'est que les triptans, il faut une ordonnance médicale. Et beaucoup de migraineux, en fait, ne consultent pas leur médecin. Ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est qu'effectivement, il y a des contre-indications, il faut les connaître. Et en particulier, tout ce qui est cardiaque, c'est-à-dire les gens qui ont une hypertension mal contrôlée, les gens qui ont eu des problèmes cardiaques, ça, c'est une vraie contre-indication. Il y a une contre-indication qui est l'âge, pour l'instant, parce que les triptans n'ont pas été vraiment étudié chez les gens de plus de 60 ans, donc ils n'ont pas une AMM, ce qu'on appelle, ils n'ont pas l'autorisation pour les migraineux plus âgés. Les effets secondaires, en fait, sont relativement modestes. Il y a une sensation bizarre. Alors, il y a des gens pour qui c'est très important, surtout la première fois, c'est très inquiétant parce que ça donne l'impression d'avoir la gorge serrée. On se dit, oh là là, je suis en train de faire l'infarctus du myocarde. Non, habituellement, c'est juste quelque chose qui va passer, qui n'est sans gravité, mais ça peut être très impressionnant et ça peut découvrir des gens de prendre des triptans.
Emmanuel nous écrit ceci: ça fait plus de 30 ans que j'ai entre 5 à 10 migraines par mois et des céphalées quotidiennes. J'ai tout essayé, rien ne peut m'aider. J'avoue que je suis désespéré.
Alors c'est pour ça que je disais il faut faire la distinction, parce que ça, c'est relativement facile et en général, ça marche pour beaucoup de gens. Mais maintenant, les gens qui ont plus de crises que ça, qu'une fois par semaine, c'est un vrai problème, parce que à ce moment-là, la répétition des crises et la répétition des traitements devient toxique. C'est-à-dire qu'en fait, plus on prend de médicaments, plus on risque de faire des crises, et on peut aboutir à un cercle vicieux qui est la céphalée chronique, où on a mal tout le temps, pratiquement il faut prendre des médicaments tout le temps. Et ça, c'est une catastrophe.
Pouvez-vous nous parler des anticorps monoclonaux spécifiques contre le neuropeptide CGRP? Je répète, les anticorps monoclonaux spécifiques contre le neuropeptide CGRP. Expliquez-nous ces nouveaux traitements qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale.
Alors, ce sont, en fait, quand on a vraiment beaucoup de crises, il faut prendre des médicaments préventifs. C'est-à-dire, on prend un traitement tout le temps pour ne pas avoir de crise. Et c'est pas les mêmes médicaments du tout. Parce que si on prend des triptans tout le temps, c'est pas bien. Mais ce sont des médicaments faits pour. Alors, jusqu'à présent, il n'y avait pas de médicaments vraiment, vraiment parfaits parce que ils n'avaient pas été faits réellement pour la migraine ou ils avaient beaucoup d'effets secondaires. Mais maintenant, il y a ces anticorps anti-CGRP qui ont été vraiment fabriqués pour la migraine. Le CGRP, ce nom compliqué, en fait, c'est cette histoire d'inflammation neurogène. Ça agit directement sur le mécanisme le plus intime de la crise. Moi, j'ai eu le privilège de faire partie des expérimentateurs de ces médicaments. Et je dois dire que j'ai été impressionnée personnellement par les résultats qu'on a pu obtenir. Et d'ailleurs, dans les pays d'Europe où ces médicaments sont autorisés et remboursés, les collègues considèrent que c'est un atout très important. C'est vraiment très différent. Alors, ce sont des médicaments injectables, globalement, qu'on se fait soi-même, comme les diabétiques, une fois par semaine ou plus, ça dépend. Il y a plusieurs de ces médicaments-là. Et ça a très, très peu d'effets secondaires. C'est très cher, d'où le problème du remboursement.
Hélas, hélas. Sabine de Brémécoeur, comment soignez-vous vos migraines ?
Je voudrais rebondir sur...
Non mais répondez-moi, parce que c'est intéressant, je pense que ça va intéresser des auditeurs qui souffrent de migraines de façon plus ou moins chronique. Comment vous soignez ?
Moi, je n'ai pas droit aux triptans, donc je bénéficie exceptionnellement d'oxygène. Nous regrettons beaucoup que ce soit hors AMM, parce que ça aiderait beaucoup de personnes sans effet secondaire. Donc ça, je traite les crises avec principalement de l'oxygène, exceptionnellement des anti-inflammatoires et puis du repos. Et j'ai aussi un traitement de fond que je prends en continu, qui dans mon cas est un anti-épileptique.
Beaucoup de questions. Nous recevons beaucoup de questions sur l'hygiène de vie, l'activité physique, les pratiques psychocorporelles comme le yoga, comme la méditation, sur les mesures hygiénodiététiques, docteur Sereni.
Ce sont des pistes très intéressantes dans la migraine, et surtout compte tenu du fait que le médicament actuellement, probablement le plus prometteur, n'est pas accessible pour la plupart des gens. Ce que je disais, c'est qu'il est très important dans la migraine de ne pas prendre tout le temps des médicaments de crise. Donc, une des façons d'éviter ça, c'est d'améliorer son hygiène de vie et d'essayer justement de contrer cette hypersensibilité qu'on a, cette vulnérabilité, en renforçant tout un tas de mécanismes de défense. Alors, le sport, c'est bien connu, ça a été étudié et fait. Le sport régulier... L'activité physique est certainement quelque chose d'efficace. Et moi, j'ai pas mal de patients qui me disaient d'ailleurs avoir été améliorés par la pratique de la natation régulière, de la course. J'avais même une patiente qui a fait de la danse acrobatique. Elle a trouvé que c'était formidable. Alors pourtant, c'est pas ce qu'on recommanderait aux migraineux, mais ça l'a bien aidé. Après ça, il y a énormément de travail sur le yoga, la méditation de pleine conscience, qui ont été bien étudiés et qui peuvent être un apport essentiel. Alors, ce ne sont pas des traitements de crise. C'est-à-dire que si vous avez la migraine, c'est pas le moment de méditer. Ouais. C'est sûr, vous n'y arriverez pas. Mais par contre, ça peut renforcer vos défenses personnelles. Après, il faut effectivement essayer de se dire que si on fait migraine sur migraine, c'est peut-être parce qu'on a un mode de vie qui n'est pas parfait et se poser des questions sur justement la régularité du sommeil, le stress, etc.
Docteur Virginie Coran.
Oui, je crois que le message peut être simple aussi à faire passer, c'est que la prise en charge de la migraine, ça peut être une association de moyens médicamenteux et non médicamenteux, et que les moyens non médicamenteux ne sont peut-être pas à négliger, sont peut-être au moins aussi utiles en fonction des patients que les traitements médicamenteux. Je voulais revenir sur les anti-CGRP, cette nouvelle famille de traitements de fond dont vous avez parlé, parce que c'est quand même une grande, grande avancée dans le domaine de la prise en charge de la migraine, et nous espérons tous, patients et soignants, que cette nouvelle famille de traitements de fond va être enfin aussi remboursée en France, parce que maintenant nous voyons revenir les patients qui ont pu bénéficier de ce nouveau traitement de fond, et ça peut vraiment avoir une efficacité remarquable y compris chez les patients qui étaient en situation d'impasse, comme le témoignage que vous avez diffusé juste avant, donc y compris chez des migraineux chroniques qui sont en surconsommation de traitements de crise, on a des retours qui sont quand même parfois vraiment très positifs. Donc souligner l'avancée que les scientifiques ont pu faire en mettant au point cette nouvelle famille de traitements de fond. Donc je reviens sur association de médicaments et de moyens non médicamenteux, encourager les migraineux à faire connaissance avec des petits outils, mais qui peuvent être utiles en association au traitement de crise, le froid pour beaucoup de migraineux, le chaud, les huiles essentielles, les techniques de neuromodulation, c'est-à-dire les techniques de stimulation électrique, et puis oui, la pratique régulière d'une activité physique est certainement un facteur protecteur et d'amélioration de la maladie migraineuse.
Sabine de Brémaker, vous vouliez intervenir?
Alors, sur deux sujets, c'est vrai que l'approche multidisciplinaire, comme le dit le docteur de Bordeaux, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite ardemment. Et nous aussi, nous incitons aussi à la créativité qui peut aider. Mais je voulais rebondir surtout sur les anti-CGRP, parce que c'est un des combats principaux de l'association. À ce jour, il y a environ 2000 migraineux qui s'offrent au prix de gros sacrifices le produit. Il y en a 45 000 qui en ont besoin. Ça représente pour ceux qui se l'offrent 3 000 euros, c'est-à-dire 2 mois de SMIC, quoi. Et là, le message, je suis intervenue 2 fois auprès du gouvernement, j'attends vraiment que ce soit remboursé. Un dossier est en attente.
Le message est passé, Sabine de Brémaker. Tiens, Émilie nous demande s'il est vrai que les migraineux sont plus à risque d'AVC, en quelques mots.
C'est vrai pour la jeune femme migraineuse, mais il ne faut pas non plus paniquer. Ils sont un peu plus à risque. La jeune femme migraineuse, il faut le savoir, surtout qu'il y a une combinaison de risques. C'est-à-dire que si vous êtes migraineuse, surtout avec aura, et que vous prenez la pilule et que vous fumez, alors là, c'est pas bon du tout. Donc, en gros, si vous êtes migraineuse, essayez de ne pas fumer et prenez peut-être autre chose qu'une pilule contraceptive habituelle.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Quel est votre témoignage, Emmanuel ?
Alors moi, je voulais juste apporter un témoignage qui est complètement particulier pour moi. C'est en fait, j'ai été migraineuse toute ma vie, depuis mon adolescence jusqu'à l'âge d'à peu près de 50 ans. Et est arrivé un problème autre gastro où on m'a demandé d'arrêter le gluten pour faire des tests. Et en fait, en arrêtant totalement le gluten pour d'autres soucis, du jour au lendemain, je me suis rendu compte au bout de 6 mois que je ne faisais plus de migraines. Au bout d'un an, on a diminué mon traitement que j'avais suivi toute ma vie. Et ça fait maintenant à peu près 4 ans, je n'ai refait que 2 migraines avec aura. Moi, j'avais les migraines avec aura, avec tout ce qu'il y avait autour. Et j'en ai refait que 2 fois. Et la deuxième fois, je me suis rendu compte que c'était dans le même cas que la première. C'était une semaine où je n'étais pas chez moi. Et où je suppose que dans les aliments que j'avais mangés, il y avait du gluten.
Docteur Carole Sereni, ce qui vaut pour Emmanuel n'est pas forcément généralisable.
Voilà, c'est quelque chose qui n'a pas pour l'instant été prouvé à large échelle. Ceci dit, il y a probablement des patients qui sont très sensibles au gluten ou qui ont des formes particulières d'allergie au gluten. Et il faut savoir d'ailleurs que dans la maladie cœliaque, qui est la forme la plus grave de l'allergie au gluten, il y a des maux de tête et il y a des maux de tête qui ressemblent à des migraines. Donc il y a quelque chose. Maintenant, ça a été très très étudié, cette histoire-là. Et en fait, globalement, sur l'ensemble des migraineux, il n'y a pas d'influence du gluten sur le déclenchement des crises.
Merci beaucoup Emmanuel de nous avoir appelé. En quelques mots, docteur Sereni, quels sont les réflexes à adopter pour soulager une migraine ?
Soulager sa crise, le meilleur réflexe, c'est de prendre un traitement. Si on a un traitement qui marche, qui est un traitement qui s'achète chez le pharmacien, très bien. Sinon, il faut consulter un médecin et avoir un traitement adapté. Un traitement de la migraine, c'est un traitement qui doit faire tout disparaître en moins de 2 heures. Si votre traitement ne fait pas ça, c'est pas un bon traitement de la crise.
Merci beaucoup Sabine de Brémécoeur, présidente de l'association La Voix des Migraineux. Merci docteur Virginie Corin, merci docteur Carole Sereni. Les mots de la migraine, c'est absolument passionnant, c'est sous forme d'abécédaire et c'est publié aux éditions du CERF. Dans quelques instants, l'intervention de Thierry Lhermitte de la Fondation pour la Recherche Médicale. On écoute Delgrès. Grèce sur France Inter. 10h52, il est temps de retrouver l'intervention de Thierry Lhermitte de la Fondation pour la Recherche Médicale. Thierry, vous êtes rendu à l'Institut des Neurosciences de Grenoble et vous avez été reçu par Frédéric Saudou, professeur des universités, praticien hospitalier qui dirige cet institut, et par Sandrine Humbert, directrice de recherche à l'INSERM. Ces deux chercheurs étudient depuis de nombreuses années une maladie génétique rare, la maladie de Huntington. Expliquez-nous ce qu'est cette maladie.
Eh bien, c'est une maladie neurodégénérative qui entraîne de nombreux déficits. Elle est génétique et causée par la mutation d'un seul gène qui code pour une protéine fondamentale, la huntingtin. Et enfin, c'est une maladie héréditaire sur un mode dominant, c'est-à-dire qu'il suffit d'hériter d'une seule copie du gène muté sur les deux copies transmises par le père et la mère pour développer la maladie. Ce qui veut dire qu'un parent atteint a une chance sur deux de transmettre la maladie à ses enfants.
Et comment se manifeste la maladie de Huntington ?
Elle est évolutive comme Alzheimer ou Parkinson, mais ici, les symptômes apparaissent beaucoup plus tôt, le plus souvent entre 30 et 50 ans. Lors de ma visite, Dominique Ville, représentante de l'association France Huntington, était présente et a évoqué les difficultés des patients, mais aussi celles de leur entourage. Car il y a à la fois des symptômes psychiatriques, cognitifs et moteurs. Alors les signes psychiatriques et comportementaux apparaissent d'abord. La dépression, l'apathie, la fatigue, les addictions. Du coup, le diagnostic est souvent difficile. Et avec le déclin cognitif, le malade rencontre des problèmes d'organisation, de planification, de mauvaise interprétation des situations, et ça devient bien vite incompatible avec le travail. Et enfin, il y a les symptômes les plus caractéristiques qui apparaissent plus ou moins tardivement, ce qu'on appelle la chorée, c'est-à-dire des mouvements brusques et involontaires qui peuvent toucher toutes les parties du corps, membres, tronc, visage. D'ailleurs, la maladie s'appelait avant la chorée de Huntington. Alors, ça n'a rien à voir avec Kim Jong-un. C'est la chorée comme dans chorégraphie, car les mouvements peuvent faire penser à une danse, d'où la danse de Saint-Guy, qui est la chorée de Sydenham. Et l'articulation et la déglutition sont aussi altérées.
Combien de personnes sont concernées en France ?
C'est une maladie rare qui, en France, touche 18 000 personnes, 6 000 malades et 12 000 diagnostiqués et encore sans symptômes. Et des consultations de génétique sont en effet proposées aux familles quand il y a un malade. Le test génétique est possible à partir de 18 ans. Il faut savoir que quand on est porteur de la mutation, la maladie se développera forcément. Et seul inconnu À quel âge? Un coup près redoutable pour la personne et un vrai cataclysme pour la famille.
Et quels sont les traitements à cette maladie?
Ben, rien de spécifique, malheureusement, donc on traite uniquement les symptômes. L'activité physique est conseillée pour préserver le plus longtemps possible ses capacités et d'après l'association Huntington France, il y a un vrai bénéfice pour le patient à être bien pris en charge dès les premiers symptômes. Donc tout l'enjeu de la recherche aujourd'hui, c'est de mieux comprendre le mécanisme de la maladie pour trouver un traitement.
Et c'est l'objet des travaux de Frédéric Saudoux et de Sandrine Humbert.
Exactement. Depuis une vingtaine d'années, ils étudient cette maladie et leurs travaux ont largement contribué à en dévoiler les mécanismes. Alors, ils ont montré d'abord que chez les malades, il y avait un problème de communication entre deux régions du cerveau, le cortex et le striatum. Le cortex, c'est connu, c'est la couche externe du cerveau. Elle mesure quelques millimètres d'épaisseur et reçoit notamment les signaux captés par nos sens. C'est le siège des fonctions cognitives. Et chez les malades, il envoie des signaux anormaux au striatum qui, en retour, fait de même. Le striatum, c'est une structure centrale du cerveau. Il participe au contrôle du mouvement, aux fonctions cognitives, comme l'exécution des tâches, la planification. Et il fait aussi partie du système de récompense qui motive nos actions et joue un rôle dans les addictions. Alors, chez ces malades, ce problème de communication se traduit par une diminution du volume de ces régions, car leurs neurones finissent par mourir.
Et qu'est-ce que les chercheurs ont ensuite fait ?
Eh bien, ils ont recherché quel était le rôle de la huntingtin. C'est une protéine très importante. Dans le cerveau, elle interagit avec au moins 400 autres protéines. Et ils ont découvert qu'elle sert, entre autres, à transporter à l'intérieur et entre les neurones un facteur qui s'appelle BDNF. Un facteur de croissance indispensable à la vie de nos cellules nerveuses. Sans lui, elles meurent. Pour ça, ils ont utilisé un système expérimental fascinant que je vous ai apporté. Dans une sorte de puce, ils ont mis d'un côté des cellules de cortex et de l'autre des cellules de striatum, avec un petit tunnel entre les deux. Et les neurones du cortex ont fait pousser leurs axones et se sont reliés aux cellules de striatum. Et les chercheurs ont pu filmer le transport de BDNF entre les neurones chez des souris saines et chez des souris malades. Le résultat, c'est que chez les souris malades, la mutation empêche le striatum d'être correctement approvisionné en BDNF. Et cela entraîne progressivement la mort des neurones dans les deux structures.
Et je suppose que maintenant, il s'agit de rétablir ce transport pour tenter de soigner les malades.
Et oui, et Sandrine Humbert et Frédéric Saudoux tiennent une piste sérieuse. Ils ont découvert une molécule qui restaure ce transport de BDNF chez les souris malades. Et les tests comportementaux montrent qu'elles retrouvent des aptitudes proches de celles des souris saines. Cette molécule a été brevetée et son développement va se poursuivre dans une biotech qui sera bientôt créée, en espérant qu'elle atteigne, d'ici quelques années, le stade des essais cliniques.
Donc la question serait quasiment résolue?
Non, pour l'instant c'est un espoir pour les malades, mais il reste de très nombreuses questions en suspens, et notamment la question de l'âge d'apparition de la maladie. Pourquoi, durant des années, il n'y a pas de symptômes? Est-ce que pendant le développement de la pathologie, le cerveau compense les déficits? Quand les premières anomalies se produisent-elles? Et alors, en étudiant les souris malades, Sandrine Humbert a découvert que dès la naissance, leur cerveau a 10% d'épaisseur en moins. Donc les anomalies se produisent très tôt. Le projet maintenant, c'est de comprendre précisément les étapes de la maladie en étudiant chaque phase du développement du cerveau. Et là, les chercheurs ont un outil génial. Le microscope à feuille de lumière. Après avoir rendu transparent le cerveau entier d'une souris, ils peuvent observer les réseaux de neurones en 3D. Donc on aura certainement bientôt des réponses à ces questions grâce à ces travaux extraordinaires.
Thierry Lhermitte, comment aider la Fondation pour la Recherche Médicale qui aide donc ce type de recherche?
En envoyant un SMS, tout simplement, en envoyant le SMS don, le message don au 92 300 et 10 euros seront prélevés sur votre facture téléphonique.
Don au 92 300, vous retrouve le mois prochain, mon cher Thierry, vous évoquerez le Covid long. Demain, avec Cerveau et Psycho, qu'est-ce qui nous pousse à acheter ?